Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. À quelles sanctions on s'expose en cas de discours de haine? Voilà, nous parlons aujourd'hui des discours de haine. Quelles sont les sanctions? On en parle tout à l'heure avec l'honorable Léon Mondolé, président de la commission socioculturelle à l'Assemblée nationale. Honorable Léon Mondolé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous recevrons également tout à l'heure Monsieur Jean-Claude Katende, qui est président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Comment autonomiser les femmes dans le contexte des changements climatiques? On en parle à partir de 11h05 de Kinshasa avec Madame Jeannette Bosingisi, coordonnateur de l'ONG Logos Premier. Voilà ainsi présenté les menus d'Okapi Service aujourd'hui. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Alain Ngoy, à la mise en onde, Tati Mapoukou réalise cette émission et la coordonne au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. À quelles sanctions? Nous parlons aujourd'hui de discours des haines. Vous savez, la nation congolaise continue à assister à la propagation des discours des haines et d'incitation à l'hostilité, avec les risques des tensions et violences ethniques et politiques généralisées, selon un communiqué du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme publié le 29 mars dernier. Cette structure estime que le projet de loi Sakata contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie, qui a été inscrit pour discussion à l'Assemblée nationale, est une bonne étape à l'élaboration d'une loi contre la haine et le tribalisme en République démocratique du Congo. Alors, à quelles sanctions on s'expose lorsqu'on tient un discours des haines, et quels sont les risques? Eh bien, on en parle avec nos invités. Nous allons accueillir notre premier invité. Il s'agit de l'honorable Léon Mondolé, président de la commission socioculturelle à l'Assemblée nationale. Honorable Léon Mondolé, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bien, nous parlons aujourd'hui de discours de haine. Comment, qu'est-ce que vous entendez par discours de haine?
D'abord, je tiens à saluer tous nos auditeurs de la radio Okapi, mais aussi à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir sur cette question fondamentale à la vie de la nation congolaise. Bien que vous venez de me prendre de court, je suis pratiquement en route. Il pourra y avoir certainement certaines perturbations, mais que je ne souhaite pas. Merci. Bon, le Congo, dès sa formation, est bâti sur une nation qui est née de l'union de plusieurs groupes ethniques que nous appelons à différents niveaux, soit tribus, soit ethnies. Et cet État est né sur un socle. Le socle, l'unité, l'acceptation d'appartenir ensemble à cet espace que nous appelons le Congo, Et le deuxième socle, c'est la volonté collective de vouloir vivre ensemble. Et ces deux socles qui forment le Congo actuel, qui forment la nation congolaise, à chaque fois, ont tendance à connaître des perturbations, des bousculades selon les événements. Et surtout les événements politiques ou les situations particulières qui arrivent au niveau des différents groupes voisins. Alors, ces événements qui viennent perturber la conscience de vivre ensemble, l'unité nationale, l'unité entre ces groupes, ont souvent injecté pour bien se faire la haine.
Alors, la honorable haine, Léo Mondolé, oui. Dites-nous, hein, qu'est-ce qui explique que de temps en temps on assiste à ces genres de discours, des haines dans certaines parties du pays ou des discours distillés par certains hommes politiques. Qu'est-ce qui explique cela?
Ces discours s'expliquent souvent par les intérêts. Ces intérêts peuvent être, et ce qui est généralement dans la plupart des cas, soit des intérêts économiques, soit des intérêts politiques, mais aussi des intérêts culturels. Les intérêts économiques, par exemple, quand ils sont en train de discuter un espace qui, économiquement présent, produit des ressources qui génèrent des revenus, et c'est à ce moment-là que certains leaders cherchent à opposer le groupe, non principalement pour les intérêts de ce groupe, mais surtout pour leurs intérêts personnels, ils cherchent à manipuler le groupe en injectant des discours qui engendrent de la haine. Et ces discours qui engendrent de la haine amènent à des situations parfois extrêmement graves où il y a des morts d'hommes, où il y a la brisure ou la fissure, la cassure de l'unité entre deux groupes qui avant vivaient comme des frères et sœurs sans pour autant avoir de problèmes de cette nature.
Honorable Léon,
mais aussi surtout, c'est parce que vous avez cité, excusez-moi, la question politique. Aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Depuis les années 60, depuis notre indépendance, à chaque fois qu'il y a des situations politiques du genre des élections ou du genre de partage du pouvoir, il y a des acteurs politiques véreux qui, pour s'attirer d'un populisme, injectent les discours de haine pour se séparer vis-à-vis de ceux à qui ils considèrent comme adversaires ou ceux à qui ils considèrent qui n'a pas beaucoup de capacité pour les convaincre à adhérer à sa vision ou à son idéologie.
Bien, donc on peut se dire que ces genres de discours, le tribalisme par exemple, c'est beaucoup plus exacerbé lors de l'approche des échéances électorales.
Exactement, nous constatons depuis les années 60 qu'à l'approche des élections, il y a ce phénomène qui fait la résurgence. Et ce phénomène s'est tenu, c'est qui est un petit peu étonnant. Vous allez constater qu'après des compétitions électorales, il y a atténuation. atténuation des conflits, et les conflits nés, suscités de discours de haine imbibés de la politique, ont tendance à s'accentuer au fur et à mesure qu'on s'avance vers les échéances électorales. Et comme je disais, cela est dicté par des intérêts politiques personnels des dirigeants. Mais aussi, n'oublions pas, comme j'ai dit, il y a aussi des éléments économiques qui sont aussi à la base de cela. Et chaque fois qu'on trouve, par exemple, un gisement minier dans un territoire où vivent depuis des décennies des populations sans discorde, les gens qui veulent tirer amplement profit de ces ressources ont tendance aussi à exciter certains groupes à s'opposer à d'autres groupes avec des motivations historico-migratoires, tout simplement en injectant les discours de haine, tout simplement pour essayer de tirer pour son compte profit de cet espace des ressources économiques. Donc, le discours de haine, ici chez nous, est plus basé, a plus un fondement sur les intérêts personnels et souvent égoïstes.
Bien, nous allons accueillir les auditeurs. Nous parlons des discours de haine. Quelles sont les sanctions qui sont prévues? Crispin Moulumba nous appelle des Lubumbashi. Vous voulez également participer à cette émission, fidèles auditeurs? Appelez au 081 890 63 94.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien, nous parlons de discours des haines. Quelles sont les sanctions et les risques qui sont liés à tout cela, avec l'honorable Léon Mondolé, président de la Commission socioculturelle à l'Assemblée nationale. Crispin nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour également à notre invité du jour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au discours des haines et l'incitation à la haine tribale?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé aussi la chance d'intervenir encore pour la énième fois. Les discours qui excitent à la haine, si vous remarquez bien dans notre pays, c'est un cas vraiment très populaire. Pourquoi? Parce que chaque fois par exemple, qu'une autorité de la place veut tenir sa meeting, chaque fois il y a des gens là-bas qui sont juste pour tirer vraiment les profits des choses mauvaises prononcées par cette dernière, par exemple. Alors, je voulais un peu poser une question à notre invité, parce qu'on ne parvient pas à comprendre. Prenons un exemple, quelqu'un qui tient, par exemple, qui prononce un discours, et il veut, par exemple, spécifier le tribu, ainsi de suite. Il cite, par exemple, que non, les Kassayans aiment nous. Et les gens qui attendent de telles paroles, pour eux, c'est un discours qui excite à la haine. Alors, qui nous explique vraiment concrètement quand est-ce qu'un discours peut exciter la population à la haine. Parce qu'ici, il y a un problème. Chaque fois qu'il y a de tels discours, ça crée des problèmes, des paniques. Vous allez voir que les gens qui étaient, par exemple, ensemble, essaient un peu de se retirer compte tenu de la parole qui a été peut-être prononcée par M. X ou Y. Et cela vraiment engendre beaucoup de conséquences, même pourquoi pas même la mort. Alors c'est un sujet vraiment très important qui l'invité vraiment nous explique dans tel type de discours, qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas dire pour ne pas arriver vraiment à toutes ces conséquences néfastes. Je vous remercie de dire.
Bien, merci. Honorable Léon Mondolé, vous avez la parole.
Pour qu'il devienne un discours de la haine, il doit remplir certaines caractéristiques. La première, c'est que le discours doit être préparé intentionnellement dans le but d'opposer deux groupes ethniques ou deux groupes sociaux. Mais deux, ou deuxième caractéristique, pendant le prononcé du discours, le concept ou le mot utilisé par l'acteur du discours doivent être de nature à inviter un autre groupe à s'en prendre soit de manière physique, soit de manière armée, ou soit par toute autre force, contre un autre groupe. Un autre groupe à qui ils ont toujours vécu ensemble. Donc, ces deux éléments, mais aussi il y en a beaucoup d'autres, sont capitales. Un acteur du discours qui appelle un autre groupe à se prendre, à s'en prendre à un autre, ou à chasser un autre groupe qui vivait paisiblement, ensemble, ou qui appelle un autre groupe à s'en prendre aux intérêts économiques et sociaux des autres groupes. Donc, c'est à ce moment-là qu'intervient l'élément haine. C'est-à-dire, l'élément haine est assis lui-même sur une volonté de détruire, la volonté de détruire un autre groupe voisin, la volonté de détruire un autre groupe qui vivait ensemble avec vous. C'est cette volonté préparée, orchestrée, qui donne au discours le sens de la haine. Voilà. Mais l'intervenant de tout à l'heure, à qui je salue fermement, a posé un deuxième problème ou une deuxième question. Comment faire pour mettre fin à ces discours de haine? Bon, dire à mon compatriote d'abord, ceux qui utilisent ces discours, ceux qui sont les opérateurs patentés de ces discours, sont souvent des personnes qui ont une faiblesse d'esprit. Quand on est limité par l'art de conviction, l'art de convaincre, on se verse dans ce genre de discours qui sont de nature à briser la cohésion nationale. Alors, pour mettre fin à cela, d'abord je dirais qu'il est pratiquement difficile, vraiment difficile, de mettre totalement fin à ce genre d'intervention des aventuriers qui tentent de briser la cohésion nationale. Mais il y a des astuces. Le premier, c'est la formation politique des acteurs politiques. Vous voyez que la plupart de nos acteurs politiques, de nos acteurs politiques, n'ont pas une formation politique. Les gens arrivent aujourd'hui dans l'espace politique, dans notre espace politique, sans transition. Du jour au lendemain, il est élu et puis il se proclame un politicien. Ça c'est un élément très important. Si on n'est pas formé, si on ne doit pas savoir que la politique, c'est l'art de servir, c'est l'art de consolider la cohésion, quand on vient, on peut venir avec des allures qui ébranlent la cohésion nationale, la nation même. Alors, la première chose, c'est former les acteurs politiques. Nos acteurs politiques ne sont pas dotés d'une formation politique. Et le deuxième proposition de solution, c'est de mais aussi former la population, sensibiliser la population, c'est parce que la population a un pouvoir de contrôle sur des acteurs politiques. La population est de nature à remettre les acteurs politiques véreux sur le rail. Et si vous savez que dans notre pays, nous avons un niveau d'éducation assez moindre par rapport à d'autres pays, et ça c'est un effort, on fait une situation importante, le gouvernement doit tout faire pour élever le niveau de culture, le niveau d'éducation de nos populations, pour qu'ils puissent contribuer aussi à réduire ce genre d'aventures qui sont de nature à briser la cohésion.
Bien, honorable Léon Mondolé.
Mais aussi, la loi. La loi doit être claire et doit être appliquée.
Honorable Léon Mondolé, il y a un projet de loi contre le racisme et le tribalisme de l'honorable Gary Sakata. À quel niveau se trouve ce projet de loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale?
Oui, c'est ce que j'allais dire, que c'est dans ce cadre que je tiens à saluer fermement la proposition de loi qui est déposée par notre collègue Sakata. Parce que nous avons constaté que le droit positif ne réprimait pas avec énergie cette série de comportements extrêmement graves qui risquent de mettre en branle toute une nation, tout un État. Et la loi, la proposition qui est déposée par notre collègue Sakata est cette fois-ci programmée dans les calendriers de la session de mars au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que nous attendons que cette loi, cette proposition soit effectivement programmée en plénière et nous y mettons, c'est parce que moi-même je suis le président de la commission qui va devoir examiner cette proposition. Nous sommes en train de tout faire pour que très rapidement cette proposition de loi soit programmée, c'est parce que c'est une loi qui a un impact direct sur le social des populations, un impact direct sur la consolidation de la cohésion nationale.
Bien, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'essentiel de cette loi? Qu'est-ce qui est proposé comme sanction, par exemple, lorsque on tient un discours de haine ou une incitation à la haine tribale?
Bon, c'est une proposition faite par les collègues. Cette proposition va être examinée en profondeur et ces propositions de sanctions pourront soit être accentuées, alourdies au niveau de la commission ou renforcées au niveau de la commission à ce stade, surtout que la loi n'est pas encore présentée en plénière pour que la plénière puisse se prononcer et en commissionner. Nous ne savons pas en profondeur beaucoup sur la nature des actions qu'il a proposées, mais je vous rassure que quand la loi sera à notre niveau, nous allons y veiller à ce que les actions soient renforcées pour que nous puissions contribuer à la réduction de ces phénomènes qui est en train d'évoluer à tâche d'œil.
Bien, honorable Léon Mondolé, président de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour parler des discours des haines. Excellente journée, à la prochaine.
Merci, je vous remercie. Je remercie aussi tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmesleaders@gmail.com.
Nous parlons de discours des haines, à quelles sanctions on s'expose. Nous avons en ligne Maître Jean-Claude Katende, président de la ZADO. Maître Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce qu'on entend par discours des haines?
Bon, je pense que avant d'arriver à cette question, il faut rappeler que il y a une loi qui réprime les discours de haine, les discours d'appel à des sentiments tribaux dans notre pays. Et c'est l'ordonnance loi numéro 66-342 de 1966 qui parle de ces questions. Et quand on parle des discours de haine, sont en fait des discours qui appellent à l'aversion tribale vis-à-vis des autres communautés, vis-à-vis des autres membres de la société.
Bien. Alors, il y a un communiqué du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui remarque qu'il y a de plus en plus, on assiste de plus en plus à la propagation des discours de haine, d'incitation à l'hostilité avec risque de violence interethnique dans le pays. Qu'est-ce que vous dites, votre réaction à ces sujets?
Je pense que le communiqué dont vous parlez a effectivement raison. Je pense aussi que ces discours de haine qui devient de plus en plus fréquent n'a pas commencé aujourd'hui ou avec ce qui se passe dans certaines provinces de notre pays. C'est un constat qui est fait depuis plusieurs années, même avant les élections de 2018, on a constaté que certains politiciens, à mal de positionnement, utilisaient les discours de haine tribale pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer vers eux le plus possible de membres de leur communauté, mais aussi en opposant leur communauté à d'autres communautés. Or, quand vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, les partis politiques, en son article 6, ont reçu pour aussi mission de concourir, n'est-ce pas, au renforcement, à la formation et surtout au renforcement de la conscience nationale. Ça veut dire qu'une des missions des partis politiques, c'est de travailler pour que leurs membres aient une conscience que nous constituons un seul pays, une seule nation, et que nous sommes liés par des liens affectifs, par des liens historiques, les uns vis-à-vis des autres. Mais par contre, il y a des partis politiques, au lieu de jouer ce rôle important, recourent à des discours de haine tribale pour pouvoir, n'est-ce pas, opposer les communautés. Ce qui est une mauvaise chose. Et ici, je voudrais insister sur le fait que la loi ne met pas seulement l'accent sur les discours. La loi parle des paroles. Quiconque aura fait recours aux paroles, aux gestes, aux écrits, aux images, aux emblèmes, vous voyez que la loi va au-delà, n'est-ce pas, du fait seulement de prononcer des paroles. Ça veut dire, en d'autres termes, que toute personne qui va distribuer des images, comme nous en voyons actuellement sur les réseaux sociaux, des gens qui font des petites vidéos où ils appellent, n'est-ce pas, à la version tribale des uns vis-à-vis des autres, qui envoient des audios, qui envoient des écrits, des messages sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes sont concernées par la loi. Et tout ça entre dans ce qu'on appelle l'incitation à la haine tribale. Donc, il faut considérer que cette notion d'incitation à la haine tribale va au-delà, n'est-ce pas, des discours. Parce que si vous vous arrêtez seulement au discours, vous allez considérer que ceux qui ont écrit, ceux qui ont partagé des images, ceux qui ont partagé des emblèmes qui appellent à la haine tribale, ces gens-là ne sont pas concernés. Or, tous sont concernés. C'est pour ça qu'il faut élargir cette notion, non pas seulement au discours, mais aux autres modalités définies par la loi.
Bien, on va accueillir Maître Yves de Kinshasa. Nous parlons des discours des haines. Maître Yves, bonjour.
Bonjour, monsieur Verdier. Bonjour, la radio.
On vous écoute, maître.
Oui, merci vraiment pour le sujet. C'est un sujet très important dans notre pays. Je crois que, vous savez, le Congo a une mosaïque de peuples qui constitue sa richesse. Après avoir été précédé par mon éminent confrère, je crois qu'il a rappelé que nous avons des dispositions légales, pénales, qui répriment le comportement que nous sommes en train de décrire, c'est-à-dire le tribalisme. Aujourd'hui, moi, je pense que la responsabilité de la justice doit être engagée parce que ces infractions se commettent à la longueur de la journée, mais c'est comme si les magistrats restent seulement dans leur bureau et ne veulent pas faire leur travail. Parce que lorsqu'il y a un comportement antisocial, il revient à la justice de bien pouvoir se saisir, réprimer et sanctionner les auteurs de ces comportements qui mettent en mal la cohésion nationale. Donc, je pense qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Notre code est un code très, très évolué, même si aujourd'hui on peut toujours améliorer, mais ce comportement a déjà été érigé en infraction et ceux qui commettent ce genre de faits doivent absolument répondre devant la justice. C'est surtout que nous sommes en train d'approcher des sciences électorales. Moi, je crois que la radio Capi a déjà fait du bien. Je crois que d'autres médias aussi, et d'autres opérateurs politiques, sociaux, etc., devraient relayer ce genre de messages pour que nous puissions avoir la quiétude dans notre pays. Vous savez, la haine tribale, etc., ont entraîné beaucoup de dégâts dans notre pays. Depuis 1960, il y a eu des génocides, parce que c'est un comportement qui permet au génocide, au crime contre l'humanité. Ce sont des infractions qui sont prévues par le droit congolais, voire même le droit international pénal, et qui peuvent être réprimées. Récemment, vous savez, ce qu'il y a eu au Kasaï, avec le massacre de Kamuina-Safou, ce qu'il y a eu au Bas-Congo, avec le massacre de Bundoja-Congo. Ce sont des comportements que nous devons déplorer, que nous devons bannir dans notre société, parce que nous avons voulu que nous puissions vivre ensemble dans ce pays. Mais si aujourd'hui nous devons continuer avec ce genre de comportements, c'est que nous sommes en train de menacer notre pays, notre nation, et de disparition, parce que ce qui construit la force de la nation congolaise, c'est cette diversité culturelle, cette diversité tribale, cette diversité linguistique. Nous devons être fiers de ça. Mais malheureusement, nous sommes en train de voir que, surtout, les détenteurs d'opinions politiques, comme on vient de le souligner, lorsque nous arrivons surtout à des séances électorales, tiennent des comportements qui mettent à mal la cohésion nationale. Et vous allez constater, M. Diodi, que c'est surtout beaucoup plus les leaders politiques sectoriels qui ne se basent que sur leur communauté locale, qui n'ont pas une opinion sur le plan national, qui veulent inciter les autres à la commission de ces des comportements qui mettent en danger l'existence de la nation congolaise. Je crois que nous devons vraiment nous élever contre ça pour que nous puissions réaliser que notre pays va continuer à exister. Sinon, notre pays va disparaître si cela continue.
Bien, merci Maître Yves de Kinshasa. Maître Jean-Claude, votre réaction?
Oui, ma réaction, elle va dans le même sens que ce que le confrère venait de dire.
Oui.
Mais je voudrais rappeler que aujourd'hui, nous risquons de vivre ce que nous avons connu dans ce pays en 1992.
Avec la chasse des Kasaïens au Katanga, qui était d'ailleurs traité de biloulou, qui veut dire insecte à écraser. Est-ce qu'il y a eu des sanctions après par rapport à ce qui s'était passé en 92?
Non, c'est ce que je voudrais souligner. C'est le fait de l'impunité. Aucun des acteurs qui était à la base, n'est-ce pas, de l'épuration de Kasaïens dans le Katanga, il y a une trentaine d'années, n'ont jamais été poursuivis. Et donc, les gens ont pensé que peut-être il n'y a pas de loi dans ce pays qui réprime ce genre de comportement. L'impunité est à la base de ce que nous sommes en train de vivre. Et ici, l'impunité a été entretenue par les différents pouvoirs qui se sont succédés à la tête de la République démocratique du Congo. Où on n'a pas considéré que les faits qui étaient arrivés en 92 méritaient en fait de sanctions pour que tout le monde puisse comprendre que ce genre de choses ne sont pas à encourager. Et je souligne ici, comme je l'avais déjà dit précédemment, que c'est toujours quelques personnalités politiques, quelques leaders sociaux qui sont à la base de ce genre de comportement. Mais je m'en voudrais aussi de dire que si nous voulons favoriser le vivre ensemble dans notre pays, il est clair que la loi doit pouvoir être respectée par tout le monde. Je ne cesse de décrier ici à Kinshasa les comportements de certains motards qui ne respectent pas la loi, qui insultent les autres usagers de la route, et ce comportement s'étend à l'ensemble du pays. Et ce comportement crée un problème au niveau du vivre ensemble. Donc, si nous voulons que les gens ne recourent pas à la haine tribale, parce que cela ne justifie pas des appels à la haine tribale, il faudra que chacun de nous, dans son comportement, puisse veiller à ce que son comportement favorise le vivre ensemble, que son comportement soit vraiment conforme à la loi de la République, au bon sens et au respect des autres citoyens. Vous voyez maintenant les problèmes que ce genre de comportement crée dans la ville de Lubumbashi. Et c'est la même chose ici à Kinshasa. Nous avons toujours demandé à l'autorité. Et là, nous disons que c'est la complaisance de l'autorité. Les événements de 92, c'était la complaisance de l'autorité. Les événements que nous déplorons aujourd'hui, c'est aussi la complaisance de l'autorité qui ne veut pas encadrer les transports à moto, qui ne veut pas discipliner, les soumettre à la loi tous ces jeunes qui recourent à la moto pour pouvoir nouer les deux bouts du mois. Mais je pense qu'il faut organiser. J'ai toujours dit que la manière dont le transport à moto se fait dans notre pays conduira certainement à des troubles, conduira certainement à des problèmes. Et aujourd'hui, nous en avons. Et je pense que l'autorité doit pouvoir saisir cette occasion pour régler cette question sur l'ensemble du pays. Il ne faut pas qu'il y ait des compatriotes qui se comportent en marge de la loi. Mais cela ne pourrait pas justifier le fait que quelques-uns appellent à la violence, appellent à la haine tribale, appellent à des comportements qui ne cadrent pas avec la loi. Je rappelle que l'article 30 de notre Constitution permet à chaque Congolais de s'établir, non seulement de circuler, mais de fixer sa résidence partout en République démocratique du Congo. Il n'y a pas un coin de ce pays qui soit réservé à tel, à X ou à Y. Parce que je vois que certains compatriotes du Katanga, par exemple, sont installés ici à Kinshasa. Et ils n'ont aucun problème. Du moment où tout le monde se comporte conformément aux lois de la République, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui appellent à la haine tribale, il faut que l'État évite de cautionner ce comportement par son inaction. Il est absolument et il est important que l'État puisse, n'est-ce pas, punir ces genres de comportements. Et surtout quand ça vient de ceux-là qui sont appelés leaders politiques ou leaders sociaux. Rappelez-vous que les stratégies, ce qui avait été fait en 92, ça n'a apporté aucun changement dans la vie de certaines communautés. Donc, il est clair que l'État doit être au centre de l'organisation de la... montre une certaine complaisance. nous allons aller tout droit vers des situations de génocide, des situations de crimes contre l'humanité, en fait des situations qui vont être déplorables pour tout le monde.
Alors, on assiste à un mouvement des jeunes, par exemple du Kasaï, des motards qui vont au Katanga. Et comme vous l'avez dit, ces jeunes qui font les taxis motos, qui ne respectent rien et qui parfois attaquent les bâtiments publics, etc. Et puis bon, voilà, certains politiques en profitent pour distiller des messages de haine. Alors, qu'est-ce que l'autorité doit faire concrètement pour arrêter cela?
D'abord, il faut rappeler que ceux qui font la moto ne sont pas, le transport à moto ne sont pas uniquement les jeunes du Kasaï. Peut-être qu'ils sont en majorité, mais aujourd'hui, compte tenu du fait que l'État ne s'est pas organisé de manière à donner de l'emploi à ces jeunes, dont la plupart ont fini des études universitaires, mais qui ne se retrouvent pas, ils ont là la possibilité de recourir à la moto pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un peu d'argent. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ce sont tous les jeunes de toutes les provinces qui s'intéressent à cette activité. Parce que les gens ont besoin d'argent facile, ont besoin de s'insérer dans la vie. Mais cela n'appelle pas qu'on puisse indexer une province, une tribu bien déterminée, et cela n'appelle pas que ceux qui font la moto se conduisent comme s'ils étaient dans une nation conquise, dans un pays conquis. Il est absolument important que la première chose que l'autorité doit faire, c'est de mettre de l'ordre dans le transport à moto. Il est clair que quand vous voyez dans les pays voisins, je ne vais pas citer certains pays, vous allez voir qu'il y a des jeunes qui font la même activité, mais qui sont disciplinés, qui maîtrisent le code de la route, qui respectent les autres usagers de la route, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Et là, je dis que vous pouvez voir, par exemple, la manière dont les jeunes travaillent avec la moto à Goma, c'est tout à fait différent de ce qui se passe dans le reste du pays. À Goma, vous ne verrez pas, et c'est rare, que vous puissiez voir un motard avec deux ou trois personnes sur la moto. Mais ça se fait au Congo. Pourquoi ça ne peut pas se faire à Kinshasa? Pourquoi ça ne peut pas se faire à Mbujimayi? Pourquoi ça ne peut pas se faire à Lubumbashi, à Kolwezi? Ça, c'est l'absence de l'autorité. Et l'autorité doit pouvoir se réveiller. On a rappelé le fait que nous allons vers les élections. Il ne faut pas que ce genre de comportement soit la base de conflits entre la communauté. Donc, il faut mettre de l'ordre dans ce domaine-là. Ce que l'autorité doit faire aussi, c'est déformer les hommes politiques et éventuellement de fermer certains partis, parce que la Constitution insiste sur le fait que les partis politiques doivent avoir une assise nationale. Mais les partis qui n'ont pas d'assise nationale doivent être fermés. Voilà aussi la complaisance. Et ce sont ces partis qui se cramponnent autour d'une province, qui se cramponnent autour d'une ville, qui sont à la base de certains comportements que nous déplorons aujourd'hui, dont les appels à la version tribale dont nous parlons aujourd'hui. Ces partis politiques doivent être tout simplement fermés parce que ils n'ont pas de représentation du niveau national. C'est la Constitution qui le dit. Mais là encore, vous allez voir que c'est la complaisance de l'autorité, du ministère de l'Intérieur, des autorités dans leur ensemble, qui permettent à ces partis politiques qui n'ont pas d'assise nationale de continuer à fonctionner en violation de la loi. Ce que l'autorité doit faire aussi, il faut que la justice s'intéresse à toute personne qui recourt, n'est-ce pas, à des appels, à des gestes, à des publications, que ce soit des écrits, que ce soit des vidéos, des natures appelées à la haine tribale. Et la formation, elle est aussi importante. On doit utiliser tous les moyens de l'État pour pouvoir former les gens, pour pouvoir aider les gens à comprendre que une nation comme la République démocratique du Congo, un pays comme la République démocratique du Congo, ne profitera rien, n'est-ce pas, des troubles tribaux. On l'a connu dans le Katanga, où on a dit que, voilà, les Kasaïens sont venus prendre nos postes, Si vous allez dans les grandes entreprises au Katanga, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de Kassaïens, il n'y a pas beaucoup de Kassaïens. Mais est-ce que ces entreprises ont repris comme à l'époque? Donc, les politiciens à mal de positionnement recourent à ce genre de choses pour opposer les tribus et l'État doit pouvoir jouer son rôle.
Et quel genre de sanctions on peut attribuer à ces politiciens qui tiennent ce genre de discours pour leurs intérêts politiques?
Je pense qu'il faut prendre la question de manière globale. Quelles sont les sanctions pour les personnes, que ce soit des politiciens ou que ce soit d'autres citoyens, qui recourent à ce genre de comportement, qui recourent à des gestes, à des paroles, à des images de nature à inciter à la haine tribale. Il faut noter que la loi dont j'avais fait mention punit d'une servitude d'un mois à deux ans et d'une amende toute personne qui incite à la haine tribale. Donc, un mois à deux ans de servitude pénale principale. Maintenant, si la personne qui incite à la haine tribale est un dépositaire de l'autorité publique, c'est une autorité publique, sa peine commence à partir au moins six mois. Donc ça peut aller au-delà, mais au moins six mois. Mais déjà, si vous faites six mois en prison, ça veut dire en d'autres termes que vous perdez votre poste, que vous perdez les repères de la vie. Et donc, il est clair que ce genre de lois doivent être vulgarisées pour que les gens puissent comprendre que s'il y a eu l'impunité à l'époque, il ne faut pas que ce genre de comportement continue.
Bien, on va accueillir Charles Kisimba de Lubumbashi. Nous parlons du discours des haines. À quelles sanctions on s'expose? Charles, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à les idées.
Quelle est votre question?
Oui, en tout cas, je salue d'abord les choix de ces sujets ici, ainsi que toutes les explications déjà fournies. Alors, j'aimerais bien commencer ce qui suit. On nous a appris que la plupart des doctrinaires ont dit que dans la quasi-totalité des infractions dans lesquelles les politiciens sont aussi impliqués, en tout cas pour trouver une solution quant à ça a toujours été compliqué. Vous allez vous faire allusion, par exemple, avec ce que nous disons, y compris quoi ça, les chanvres, par exemple, la consommation du chanvre. Alors, il y a toujours eu des efforts, mais qui s'avèrent toujours faits. Maintenant, dans le contexte politique congolais, en tout cas, c'est la honte. Même nos partis politiques tels que les JDA déjà épinglés, cela, en tout cas, c'est la honte. Quand vous entrez dans un bureau quelconque, vous n'allez pas trouver une bibliothèque ou bien un livre dans lequel vous allez vous ressourcer, mais vous allez trouver les gens en pleine discussion, en train d'insulter leurs adversaires politiques. Donc, il nous est même difficile, nous qui sommes chercheurs, de se présenter dans un bureau d'un parti politique dont vous n'êtes pas de cette tribune. Alors, on ne sait pas pourquoi au Congo il y a un tel comportement. Voilà pourquoi je voulais aussi demander à l'invité, est-ce qu'il n'y a pas moyen de supprimer ces groupes folkloriques? Parce que dans ces groupes-là, où vous allez les trouver d'ailleurs, c'est toujours dans leur langue maternelle et non les français ou bien une langue nationale, ils s'expriment dans leur langue maternelle. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là en catimini. Voilà pourquoi. Ici, je pense que la Constitution a autorisé le pluralisme politique. On ne sait pas maintenant les plafonds, les seuils, combien de partis politiques que l'on devrait atteindre pour ne pas en créer d'autres. Alors, comme trop c'est trop, il a fallu que l'on puisse, que la Constitution soit révisitée afin qu'on puisse connaître le nombre de partis qui peuvent exister dans ces beaux pays.
Merci. Merci Charles.
C'est ce qu'on appelle du groupe folklorique.
Merci, voilà, merci Charles. D'accord. Maître Jean-Claude, à vous la parole.
Très bien. Je remercie l'auditeur pour sa question. Et je dis tout simplement que les groupes à caractère culturel, les groupes folkloriques ne sont pas des groupes qui favorisent le tribalisme. Travailler à la promotion des valeurs culturelles d'une province, d'une tribu, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais cela devient mauvais si dans ce genre de groupe, on est en train de promouvoir les valeurs d'une tribu contre d'autres tribus. En ce moment-là, la loi dont je venais de parler s'occupe de tous ces groupes à caractère tribaux, à caractère tribal, qui travaillent pour la promotion d'une tribu contre d'autres tribus, ou qui travaillent pour la primauté d'une tribu contre d'autres tribus. Mais les groupes folkloriques qui travaillent pour la promotion d'une culture, faire connaître une culture, faire en sorte que les valeurs ancestrales soient protégées, soient connues, soient vulgarisées, je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Mais si ces groupes servent des tremplins au discours de haine, en ce moment-là, je pense que la justice peut leur appliquer, une fois qu'ils sont identifiés, les dispositions de l'ordonnance de 1966.
Bien, il y a par exemple dans des coins du pays où vous arrivez, on vous traite de non-originaire, Djadjambo, Kouya, voilà, donc les gens venus d'ailleurs et que vous devez tout faire pour rentrer chez vous. Comment la société civile, les organisations de la société civile peuvent aussi s'impliquer dans l'éducation des masses par rapport à ce genre de questions?
En fait, il faut que vous puissiez savoir que la responsabilité d'éduquer les masses revient à l'État, revient aux partis politiques. Aussi, comme un complément du travail que les ONG de la société civile sont en train de faire. Et je pense que dans toutes les provinces, les ONG ont toujours travaillé pour que les gens vivent, pour favoriser le vivre ensemble, pour faire en sorte que les gens se respectent. Les gens travaillent dans une communauté où il y a plusieurs diversité en termes de tribus. Mais je pense que le travail qui est fait par la société civile, c'est pas un travail important dans la mesure où la société civile n'a pas les mêmes moyens d'action que l'État. Il est important que l'État puisse, n'est-ce pas, soutenir les organisations de la société civile pour qu'ils puissent faire ce travail de sensibilisation, de vulgarisation, des valeurs qui nous mettent ensemble, des valeurs qui font que nous puissions travailler ensemble. Il faut aussi reconnaître que les efforts qui ont été fournis par le président Mobutu pour favoriser la cohésion nationale, l'unité nationale, n'ont pas été soutenus, n'ont pas été poursuivis. Pourquoi cela était possible à l'époque du président Mobutu, que quelqu'un du Congo central aille travailler au Katanga, ça ne posait aucun problème?
Bien, maître Jean-Claude, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine.
Merci.
Bien, tout à l'heure, nous allons suivre les informations et on va se retrouver juste après pour parler de l'autonomisation de la femme dans le contexte du changement climatique. Pour participer à cette émission, composez les 081 890 63 94.